Europe 1, il est 22h. Et le journal, c'est avec vous, Maëlle Hassani, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce lundi soir. À la une de votre journal, le Premier ministre israélien appelle la communauté internationale à rester unie face à l'Iran. Première déclaration de Benjamin Netanyahou depuis l'attaque sans précédent lancée par Téhéran contre Israël ce week-end. Le chef de Tsahal promet quant à lui une riposte. La crainte de l'embrasement régional n'a jamais été aussi grande. On sera à Tel Aviv dans quelques minutes pour entendre les réactions des Israéliens. Un plan B et même un plan C pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Emmanuel Macron reconnaît qu'il se prépare à plusieurs éventualités si la menace terroriste est trop grande pour organiser le grand défilé sur la Seine le 26 juillet prochain. Parmi les pistes envisagées, une cérémonie au Stade de France. Dans ce journal également, la réponse du patron de Stellantis, Carlos Tavares, alors que la polémique enfle sur sa rémunération stratosphérique. Et puis l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Ce soir, ce sera le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud.
Europe 1.
Mais tout d'abord, faisons appel à nos souvenirs. Rappelons-nous de cette soirée dramatique du 15 avril 2019, quand sous les yeux de centaines de Parisiens et de touristes, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Europe 1 vous a préparé une journée spéciale pour l'occasion. Et dans moins de 8 mois, la cathédrale, plusieurs fois centenaire, va renaître. La réouverture au public est prévue le 8 décembre. Les ouvriers mobilisés pour ce chantier du siècle ont réalisé les travaux en un temps record. Antoine Bienvaux, vous avez pu visiter ce chantier et vous nous emmenez avec vous d'abord sur le toit de Notre-Dame.
Oui, et pour accéder à l'échafaudage à 40 mètres du sol, on emprunte un ascenseur qui nous dépose au pied de la nouvelle flèche de Notre-Dame. C'est ici que travaillent les couvreurs qui recouvrent la charpente avec des tables de plomb. Depuis janvier, Quentin Attias et ses équipes posent chaque jour une dizaine de plaques sur la structure.
On les fait descendre tout le long du toit avec un système de treuil, un peu comme un skateboard qui descend sur le toit, qui porte la table de plomb et nous on va la poser directement. Ça nous permet de manipuler le plomb parce que les tables elles font quand même 52 kilos.
La restauration se poursuit donc sur le toit de Notre-Dame, mais la majorité des compagnons œuvrent cependant au sol à l'intérieur de la cathédrale. Nathalie Pruat, par exemple, est restauratrice de sculptures. Au milieu des scies et des marteaux, elle restaure les joyaux de Notre-Dame, dont récemment le célèbre vœu de Louis XIII. Mais attention, avant de définitivement remettre en cire les sculptures, il faut suivre un protocole bien précis.
Une fois le nettoyage terminé, des tests lingettes sont effectués afin de savoir si le taux de plomb est acceptable ou pas. Là, je suis en attente pour Monseigneur de Kélène. Donc j'attends les résultats pour le mettre en cire, pour qu'on puisse réouvrir au public en pleine sécurité.
Après le travail des compagnons, l'intérieur de Notre-Dame apparaît désormais beaucoup plus lumineux qu'avant l'incendie, grâce à la restauration parfaite des vitraux et des pierres plus blondes et lumineuses que jamais.
Antoine Bienvaux, merci pour cette formidable visite guidée. Et je rappelle que le premier épisode de votre podcast européen, Notre-Dame de Paris du Brasier à la Renaissance, est en ligne. Vous avez réalisé ce beau travail avec Caroline Baudry et c'est à découvrir sur le site et l'application Europe 1. Pour la première fois depuis l'attaque inédite de l'Iran contre Israël ce week-end, un officiel israélien promet une riposte. C'est le chef d'état-major de l'armée israélienne qui l'a dit devant des soldats sur une base touchée par l'une des frappes de Téhéran. Le porte-parole de Tsahal promet de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël. Je cite, à l'occasion et au moment que nous choisirons. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle également, il y a quelques instants, la communauté internationale à rester unie face à l'Iran. Bonsoir Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Que pensent les Israéliens de cette riposte annoncée par l'armée ?
Eh bien, la société israélienne est divisée sur cette question d'une éventuelle riposte après l'attaque iranienne. Ici à Tel Aviv, certains, comme Sarah, estiment qu'il faut répondre sans attendre.
On ne peut pas faire preuve de faiblesse de ces pays-là qui veulent notre mort, en fait. Donc on est obligé, effectivement, d'avoir des réponses, j'entends bien, militaires et appropriées. On est bien obligé de répliquer, puisqu'on veut la paix, mais ils ne veulent pas la paix. On fait quoi ?
Que temporiser puisse être interprété comme une forme de faiblesse, c'est également la crainte d'Olivier en faveur, lui aussi, d'une contre-attaque.
Sur le plan tactique, il faudra de toute façon répondre pour essayer d'éliminer ce que globalement je considère comme une menace contre notre civilisation.
D'autres personnes se montrent plus mesurées, estimant que cette riposte ne ferait qu'embraser une situation déjà explosive dans la région. Or, voit ce scénario d'un très mauvais œil.
On ne devrait pas riposter. Je pense que c'est ridicule. C'est une erreur de la part d'Israël de tuer des responsables iraniens à Damas. Ça doit s'arrêter. Je pense que cette guerre froide nous fait seulement perdre des vies.
La jeune femme estime également qu'il ne faut pas perdre de vue ce que de nombreux Israéliens considèrent comme une priorité absolue, la libération des otages toujours retenus par le Hamas.
Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Et cette attaque massive de Téhéran contre Israël est présentée comme une riposte à la frappe sur le consulat iranien à Damas en Syrie le 1er avril. Pour la première fois, Tsahal a commenté cette frappe qu'elle n'avait jamais revendiquée. Selon le porte-parole, les personnes tuées dans ce raid étaient des terroristes engagés contre Israël. 7 membres des gardiens de la révolution sont décédés ce jour-là. Et Joe Biden se montre inquiet ce soir. Le président américain estime avoir vaincu l'attaque de l'Iran avec les partenaires des États-Unis et il assure aussi vouloir éviter un embrasement au Moyen-Orient. La France a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Iran à Paris. Les ambassadeurs de Téhéran en Belgique, en République tchèque et en Allemagne ont également été convoqués. Pendant ce temps, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza et aux États-Unis, des militants pro-palestiniens ont décidé de bloquer le très fréquenté Golden Gate Bridge de San Francisco pour réclamer l'arrêt des combats. Des banderoles sur lesquelles on pouvait lire notamment « Arrêtez le monde pour Gaza » ont été brandies par des dizaines de militants qui ont bloqué la circulation en restant au milieu de la route. Le suspect de l'attaque au couteau dans une église près de Sydney en Australie est un adolescent de 15 ans. Il a été interpellé peu après les faits et il est actuellement soigné pour des blessures à la main. Ses motivations restent inconnues pour l'heure. 4 personnes ont été blessées lors de cette attaque perpétrée en plein service religieux. Le prêtre fait partie des victimes. Il y a 2 jours, 6 personnes étaient tuées dans une autre attaque au couteau, également à Sydney, dans un centre commercial. Elle est accusée d'avoir fait preuve de négligence dans la gestion des armes à feu sur le tournage du western Rust en 2021 au Nouveau-Mexique. L'armurière du film est condamnée à 18 mois de prison ferme. La directrice de la photographie de ce film avait été tuée sur le tournage après un tir accidentel du producteur Alec Baldwin. Lui sera jugé pour homicide involontaire en juillet prochain.
Europe 1 Nuit, Maëlle Hassani.
Les ministres de l'Intérieur et des Sports l'ont répété à plusieurs reprises malgré la menace terroriste. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris aura bien lieu sur la Seine. Et pourtant, une autre version a été avancée aujourd'hui par le président de la République lui-même. Alexis de la Fléchère, Emmanuel Macron reconnaît qu'il existe des plans B et des plans C pour le 26 juillet. Et le coup d'envoi des Jeux pourrait être donné au Stade de France.
Oui, c'est ce qui se fait classiquement, a dit le chef de l'État. Mais si cette hypothèse venait à se confirmer, le Stade de France ne serait alors utilisé que pour la cérémonie protocolaire et non plus artistique. Ça veut dire que l'enceinte sportive accueillerait en fait uniquement la déclaration d'ouverture des Jeux faite par le président de la République et le serment olympique prêté par les 2 athlètes. Pas de spectacle donc, ni de show au menu. Pas d'intérêt a priori donc d'accueillir dans ces conditions du public. Le plan B, lui, a été annoncé autour du Trocadéro, un schéma dans lequel on conserverait quand même une partie de la cérémonie sur la scène, mais de façon réduite. Des annonces qui interviennent en tout cas dans un contexte très tendu. La DGSI, Europe 1 vous le révélait au début du mois, avait préconisé au ministre de l'Intérieur de prévoir très sérieusement des alternatives au plan initial.
Alexis de la Fléchère. Et à environ 100 jours de cette cérémonie d'ouverture, la mythique flamme olympique sera allumée demain à Olympie en Grèce, comme le veut la tradition. La première relayeuse française sera Laure Manoudou. Le comité olympique grec a choisi de faire cet honneur à l'ancienne championne de natation. La flamme va entamer un périple de plusieurs semaines avant d'arriver en France le 8 mai prochain, à Marseille précisément. L'assemblée générale du groupe Stellantis va se tenir demain. Et à cette occasion, le patron, Carlos Tavares, va savoir si sa rémunération va atteindre 36,5 millions d'euros. Un vote sera organisé et il n'est pas gagné d'avance. Alors forcément, une telle somme, ça fait parler. Emmanuel Macron lui-même avait déjà qualifié le salaire de Carlos Tavares de choquant et excessif. C'était en 2022. Et cette année, la polémique enfle à nouveau. Mais le chef d'entreprise portugais s'est justifié tout à l'heure lors d'un déplacement à Metz.
C'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. C'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Donc, c'est ça ce que vous répondez. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. et je la respecterai.
Le patron de Stellantis, on a donc entendu sa réponse. Carlos Tavares, qui était à Metz tout à l'heure, au micro Europe 1 d'Aurélien Fleureau. L'ADN a parlé. Le visiteur aperçu au sein de la communauté des sœurs dominicaines de Béthanie, près de Besançon, n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Plusieurs signalements avaient été effectués le mois dernier, car la personne en question ressemblait au seul suspect du meurtre de sa femme et de ses enfants à Nantes en 2011. Il n'a jamais été retrouvé depuis. Et puis un record de chaleur précoce a été battu samedi dernier, annonce Météo France. La température moyenne a atteint 17,9 degrés au niveau national. C'était jamais arrivé avant un 15 avril. Des pics à plus de 30 degrés ont été relevés par endroits comme à Carcassonne dans l'Aude, par exemple. Vous écoutez Europe 1, il est 22h10. Place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
L'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir, c'est le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Alors la quasi-totalité de la classe politique a condamné l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël ce week-end, mais à gauche, des prises de position individuelles paraissent plus complaisantes à l'égard de la République islamique. Quelle est votre réaction, Bastien Lachaud, en tant que député de la nation après cette attaque contre l'État hébreu ?
Avec la France insoumise, je condamne cette riposte iranienne qui est une escalade de plus et qui contribue au danger d'embrasement régional et guerrier. Et nous devons revenir à une solution pacifique du différend.
Alors, vous parlez de la réaction de la France insoumise dans un communiqué, mais une réaction de l'une de vos collègues est très commentée depuis samedi. C'est Ercilia Soudet, donc députée LFI. Elle a écrit, je cite, « Netanyahou a obtenu ce qu'il cherchait en assassinant un dirigeant iranien dans une ambassade en Syrie. Une guerre régionale est le seul moyen qu'il a trouvé pour assurer la survie politique de son gouvernement. » Vous vous désolidarisez de ces propos ?
Il n'est pas, c'est pas une question de se désolidariser ou autre. Aujourd'hui, il y a un risque d'embrasement dans la région. Nous avions condamné l'action d'Israël de bombarder un consulat iranien, c'est-à-dire une emprise qui est protégée par le droit international. Donc, d'une certaine manière, c'était le sol iranien que Israël avait frappé. Tout cela est irresponsable et des deux côtés. Il faut aujourd'hui, et c'est ce que portent les États-Unis, c'est ce que porte d'une certaine manière la France aussi, il faut que Israël ne riposte pas, il faut qu'il y ait des garanties de sécurité mutuelle qui soient apportées pour garantir la sécurité d'Israël, garantir la sécurité de l'Iran, afin que l'on puisse en finir avec cette spirale guerrière.
Mais quand votre collègue dit Netanyahou a obtenu ce qu'il cherchait, on a l'impression que Israël et l'Iran sont renvoyés finalement dos à dos. Est-ce que c'est une position qu'on peut tenir, renvoyer dos à dos à cette démocratie qu'est Israël et cette dictature féroce qui est Téhéran ?
Que l'Iran soit une dictature féroce, nul n'en disconviendra, je pense et je l'espère. Mais le fait est que Israël viole aussi le droit international. Aucun pays n'a le droit de frapper une emprise diplomatique. C'est grave et cela contribue à une spirale de violence dans la région. Et la région n'a absolument pas besoin de ça. Et donc il ne s'agit pas de renvoyer les uns et les autres. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le respect du droit international. Point. C'est en respectant le droit international, c'est-à-dire la garantie du plus faible contre le plus fort, que l'on peut réussir à apaiser les choses. Si on bafoue le droit international, qui que ce soit d'ailleurs, si qui que ce soit bafoue le droit international, c'est le droit du plus faible qui est toujours menacé, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, garantit en fait la survie du plus faible face au plus fort, et c'est ce qui fait que ce n'est pas la loi du plus fort qui l'emporte. La loi du plus fort, c'est la situation naturelle par excellence, mais justement, ce qui fait société, ce qui fait l'humanité, c'est que nous sommes en capacité de protéger le plus faible, et c'est le droit international qui le permet. Nous devons protéger le droit international parce que c'est aujourd'hui la seule chose qui nous empêche de sombrer dans la guerre.
Alors ce week-end, quelques heures après cette attaque, il y avait un meeting de la France Insoumise organisé à Montpellier. Dans la salle et sur scène, ce sont des slogans davantage hostiles à l'État hébreu qui ont été scandés et assez peu de condamnations du régime iranien. Vous êtes à l'aise avec ça ?
Mais je ne sais pas ce que vous essayez d'instaurer.
Non, ce sont les slogans qui ont été lancés dans la salle à Montpellier. Je n'invente rien en l'occurrence.
Aujourd'hui, la Cour internationale de justice, la plus haute instance juridique au monde, dit qu'il y a un risque de génocide à Gaza perpétré par Israël. C'est un fait et que cette Cour internationale de justice a dit. Voilà, ce que nous disons, c'est que le génocide qui est potentiellement en cours à Gaza, doit s'arrêter. Parce que c'est ce génocide et c'est cette action d'Israël à Gaza qui ont entraîné un embrasement régional. Alors évidemment, il y a les actions du Hamas le 7 octobre que nous avons condamnées et qu'il faut condamner parce que ce n'est pas acceptable, parce que ce sont des crimes de guerre qui violent le droit international. Mais Israël a riposté de manière totalement disproportionnée et continue de riposter de manière complètement disproportionnée vis-à-vis des civils de Gaza que nous devrons aujourd'hui protéger. Et donc, il y a là un embrasement généralisé qui risque d'advenir et il faut aujourd'hui le stopper. Et la seule manière de le stopper, je vais le répéter autant de fois que ce sera nécessaire, c'est le respect du droit international. Israël n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait à Gaza aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice. Ce n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est la Cour internationale de justice, c'est l'ONU.
Bastien Lachaud,
c'est la plus haute instance internationale qui existe.
Je rappelle que vous êtes donc député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan doivent participer à une conférence prévue jeudi prochain à l'Université de Lille. Une conférence consacrée à la Palestine, mais plusieurs élus, dont le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et des députés RN et Renaissance, demandent l'annulation de l'événement. Ils craignent notamment des dérapages antisémites. Pour vous, c'est quoi ? C'est une tentative de bâillonnement ?
Exactement, c'est la négation de la liberté de s'exprimer.
Mais ces craintes par rapport aux positions antisémites sont des craintes qui sont exprimées par des élus de la République, donc oui, ça peut poser question aussi.
Exactement, ils expriment ces craintes, sauf qu'ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de montrer un seul propos, un seul acte antisémite perpétré par Rima Hassan ou Jean-Luc Mélenchon. Cela n'existe pas, cela est un fantasme, cela est une manipulation politique et il faut à un moment donné arrêter les mensonges. Où pouvez-vous me citer un seul propos antisémite de Jean-Luc Mélenchon ? Il a combattu l'antisémitisme toute sa vie. Il a combattu toute sa vie, toute forme de racisme. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec les fantasmes. Aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est que nous avons un risque de génocide qui est potentiellement commis à Gaza. Nous avons un embrasement potentiel du Proche et du Moyen-Orient. Et je pense que nous devrions, et les responsables politiques qui mènent cette fausse bataille sur cette conférence, feraient mieux de se soucier de cela plutôt que de basses manœuvres politiciennes qui n'ont aucun fondement réel.
Et dans un tweet publié aujourd'hui, Bastien Lachaud, vous y allez assez fort. Hein. Vous parlez, je cite, d'une dictamole macroniste. Ils ne cachent pas leur pulsion autoritaire. Ce sont des accusations assez graves.
Non, ce n'est pas grave, c'est la réalité des choses. À partir du moment où on ne garantit plus la liberté d'expression, où l'on stigmatise l'opposition en faisant dire à l'opposition des choses qu'elle n'a jamais dit, en déformant ses propos et en voulant de fait la bâillonner, je suis désolé. Cela est une remise en question du caractère démocratique de notre pays.
Alors ce qui est aussi remis en question sur cette affaire de cette conférence à Lille, c'est la présence d'un logo sur l'affiche de l'événement. C'est le logo de l'association Libre Palestine qui, pour de nombreux commentateurs, signifie la disparition de l'État d'Israël sur ce logo. Vous êtes à l'aise également avec la présence de ce logo et de cette association ?
Alors ça, il faudra voir avec l'université parce que c'est une association qui est agréée par l'université. Donc si il y a un problème avec cette association, c'est l'université auprès de laquelle il faut s'adresser. Mais je tiens à rappeler une chose, c'est que le droit international, toujours lui, dans la résolution de l'ONU de 1967, dit une chose, le droit d'Israël a existé, et le droit de l'État palestinien à exister. C'est la solution à deux États. Donc dire que nous devons reconnaître l'État de Palestine, et c'est ce que nous disons à la France insoumise, comme le dit d'ailleurs le droit international, ne veut pas dire que Israël doit cesser d'exister. Le droit international dit il doit y avoir deux États, un État israélien, un État palestinien. Quelqu'un a un problème avec le droit international ? En tout cas, ce ne sera pas la France insoumise qui aura un problème avec le droit international. Mais si ces élus nient le droit de la Palestine d'exister, d'une certaine manière, ils nient le droit international.
Merci beaucoup, Bastien Lachaud, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Je rappelle que vous êtes député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Un point maintenant sur les marchés financiers. Le CAC 40 a gardé son calme après l'attaque de l'Iran contre Israël. Et ce soir, il clôture en modeste hausse, plus 0,4% à 8045 points. En revanche, la bourse de New York a été plus sensible à la situation géopolitique. Le Dow Jones se replie de 0,65% et le Nasdaq lâche 1,79%. La météo désormais avec vous, Marlène Duret. Demain, ce sera frais, variable avec des averses.
Et oui, les pluies de la perturbation arrivées aujourd'hui vont descendre dans le sud pour s'étendre demain matin des Pyrénées au Jura et aux Alpes du Nord en passant par le Midi toulousain, le sud de l'Auvergne et la région lyonnaise. Et elles vont s'accompagner toujours de vent, de fraîcheur. Alors en journée, quand même, petit changement, des éclaircies réussiront à percer, sauf sur le piémont pyrénéen. Pour le reste du pays, c'est plutôt un ciel assez variable, changeant, avec des éclaircies, des averses, plus ou moins nombreuses. Alors elles seront plus nombreuses dans les régions du sud-ouest. Et à l'est d'une ligne reliant Rouen, Chartres, Bourges et Grenoble l'après-midi. Donc ça nous fait un bon quart nord-est, on va dire. Et puis il va neiger sur la plupart des massifs montagneux. Un temps plus sec et ensoleillé du côté de la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent. Et les températures prévues en journée, 11 degrés à Tourcoing, Nancy, Belfort et Saint-Étienne, 12 à Strasbourg et Cherbourg. Il fera 13 à Saint-Brieuc et Grenoble. Prévoyez 14 à Paris, à Nevers, 15 entre Nantes et Bordeaux, également à Toulouse, 16 à Tours et à Auch, 17 à Montélimar et plus de douceur près de la Grande Bleue avec 18 à 23 degrés, 23 à Bastia.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h21 et on retrouve la Libre Antenne avec Olivier Delacroix jusqu'à 1h du matin. Et pour passer à l'antenne et échanger avec Olivier, le numéro, je vous le rappelle, c'est le 01 80 20 39 21. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Maël, comment allez-vous?
Très bien, ravi de vous retrouver en ce lundi.
Ravi aussi de vous retrouver, je suis en pleine forme.
Mais très bien, bien reposé.
Très bien reposé,
je dois le dire. Un petit peu.
Ouais, bon.
Les rayons de soleil.
Oui, peut-être.
Vous avez profité un peu.
En moto. Ah, oui, mais voilà. Je ne suis pas trop du genre à m'exposer comme ça, vous savez. Je ne suis pas un coquet au point d'avoir un ton allé. Non, c'était plutôt un week-end ensoleillé, mais j'étais plutôt à l'intérieur.
Vous attirez le soleil.
Vous savez. Et je suis allé en Normandie ce week-end. Ah. J'ai eu la chance de pouvoir profiter de mon week-end. Donc, vous voyez, je suis en pleine forme. Bon. Pas de tournage ce week-end.
Formidable. Donc,
voilà, j'aurais noté dans votre journal quand même qu'on a un des grands patrons encore aujourd'hui qui gagne.
Qui va peut-être gagner 36,5 millions.
36,5 millions en une année. Voilà. Alors, voilà, je me demande ce qu'il va faire de tout ça, déjà. Et puis, en une année quand même.
Mais
ne devrait-on pas réfléchir à l'entreprise maintenant avec des salariés qui, vous savez, un système participatif. Plus l'entreprise gagne d'argent, plus les salariés gagnent de l'argent. Et non le patron qui voilà, synthétise beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça, c'est un peu un rêve
bien sûr.
Que j'ai.
Emmanuel Macron, alors il l'avait dit en pleine campagne présidentielle en 2022, donc il y a aussi forcément des visées politiques, mais il avait dénoncé déjà à l'époque le salaire de Tavares en le qualifiant de choquant et excessif.
Mais oui, mais c'est choquant. Imaginez le nombre de Français et de Françaises qui ne gagnent même pas 2000 euros, moins de 2000 euros.
Bien sûr.
Et enfin, il y a quelque chose de disproportionné, mais malsain, en fait. Alors, bien évidemment, on vous dira, oui, mais ces grands patrons ont fait de grandes études et tout, mais oui, bien évidemment. Et bien évidemment, ce sont des gens brillants. Et bien évidemment, ils sont nécessaires au système. Mais la disproportion entre un salaire comme celui-ci et le bas, ça ne peut que provoquer des personnes qui vont se trouver délaissés par le système, vous voyez, des gens qui à la fin du mois ont du mal, et quand ils entendent ce type de nouvelles et ce type de conflit entre les politiques qui disent c'est trop patati patata, mais rien ne se passe finalement, Voilà. Moi, j'ai discuté avec un financier cette semaine, un garçon d'une quarantaine d'années, pourtant très riche, mais qui évoquait cela, la possibilité de faire que les entreprises aujourd'hui soient sur un système où les salariés sont récompensés à la marge faite par l'entreprise, sans que finalement le patron ou les plus gros salaires se sentent délestés de quoi que ce soit, vous voyez. C'est comme ça. Et je doute que ça change,
oui.
Malheureusement. Bon, mais c'est comme ça. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais dire dans ma petite libre antenne à moi. Et puis, ce soir, je me sens bavard, donc
très bien.
Il y a de fortes chances que j'échange avec celles et ceux qui composeront le 01 80 20 39 21. On vous retrouve tout à l'heure à 23h, mon cher Maël.
Tout à fait, à tout à l'heure.